les choses divines plutôt que les choses bibliques. Sans que ça vous choque, hein. Parce que quelquefois, pour avoir voulu être biblique, on n'a pas été très divinement inspiré. Parce que à vouloir être biblique, on veut couper parfois les cheveux en quatre, enfin pour ceux qui en ont, et puis on finit par ne plus être tellement divin. Pourquoi le sacrificateur et le lévite ne se sont-ils pas arrêtés pour s'occuper du blessé? Parce qu'ils voulaient être bibliques. Fallait pas s'approcher de quelqu'un, fallait pas toucher un mort. Il n'était pas mort seulement, il était seulement à demi. Alors, c'est comme le verre à moitié vide et à moitié plein. Mais pour avoir voulu être biblique, ils n'ont pas été divins. Je préfère parler de choses divines, parce que c'est ça que Dieu nous demande. D'avoir des pensées comme les siennes, d'avoir des attitudes comme les siennes, d'avoir des comportements comme les siens. Et comme j'ai un peu tôt, est-ce que c'est un peu chaud? Est-ce que c'est biblique si j'enlève ma veste?
Voilà, parce qu'il fait chaud ici, hein. Alors moi, je demande ma clim personnelle.
Voilà. Demandez trois fois. Pas trois fois ici, mais en fonction de d'autres églises où il a déjà été pasteur et il m'a demandé de venir traiter le sujet. Et comme je disais hier, n'étant pas non plus une machine à répétition, je souhaite avoir une approche qui corresponde à ce que chacun a besoin d'entendre. Et même, je commençais ainsi hier soir, peut-être que certains se sont dit, c'est pas la peine de venir, puisqu'on n'est pas malade. Donc le sujet ne nous concerne pas, on n'a pas besoin d'être guéri, on va bien. Ou bien, autre réaction possible, on ne va pas si bien que ça. Mais si on vient pour écouter un tel sujet, les gens vont penser qu'on ne va pas bien. Ah, mais vous savez, j'ai parfois, par exemple, voulu être utile, admettons, au couple, en annonçant des sujets sur la vie du couple, et j'ai été déçu, parce que ceux qui sont venus étaient des célibataires et les couples auxquels je m'attendais ne sont pas venus. Pourquoi? Parce qu'ils se disaient, si nous venons, les gens vont penser que peut-être nous avons des difficultés conjugales. Je l'ai vu, je l'ai constaté, donc c'est pas simple. On est compliqué, n'est-ce pas? On est compliqué. Mais l'approche hier que j'ai proposée était, pour cette première partie, de montrer qu'en fait le processus de guérison dans l'être humain, même s'il n'est pas malade, au sens où ce serait pathologique, c'est le processus du salut. Le processus du salut, c'est un processus de guérison. Car nous, on dit parfois salut et guérison. Mission, salut et guérison. Vous connaissez l'expression? Mission, salut et guérison. Deux mots. Mais dans la Bible, il arrive assez souvent que le verbe guérir et le verbe sauver soient le même dans l'original, et les traducteurs ont mis guérir ou sauver, mais en fait, le même verbe pourrait être traduit soit par sauver, soit par guérir. Pas toujours, mais souvent. Ce qui fait que lorsque la Bible parle de guérison, et là où c'est vrai que c'est la guérison divine, c'est que c'est une guérison que Dieu fait en proposant aux humains son salut. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, disions-nous hier soir? Et là, à la fin, j'ai parlé sur le texte d'Éphésiens chapitre 4 où il est écrit que certains sont appelés par Dieu à le servir pour le perfectionnement des saints. Et le verbe était, est-ce que vous en rappelez? Non, c'était plus précis. Réparation. C'est pareil que dans le texte où il est question de disciples qui étaient descendus pour réparer leur filet. Et c'est la même racine. Et je parlais du fait que Dieu répare les trous, les déchirures, Et ça a peut-être étonné parce que j'ai pas parlé de maladie, je n'ai pas parlé de traumatisme. Non, non, non. Mais on a besoin d'être guéri dans notre cœur par rapport à notre intelligence, par rapport à notre raisonnement, par rapport à notre façon de penser, par rapport à notre conscience. Je l'ai juste dit, je ne l'ai pas développé, je l'annonce tout de suite. Demain après-midi, je reviendrai sur ces trous qu'il faut soigner, la guérison de la conscience, la guérison de l'intelligence, la guérison du raisonnement, de la façon de penser, et ça, ça concerne tout le monde, parce que si Dieu ne peut pas soigner quelqu'un à ce niveau-là, ce quelqu'un, c'est assez absolu, ne pourra jamais dire qu'il est sauvé. Ça fait choc. Mais si quelqu'un n'a pas été soigné dans ses pensées, dans sa conscience, dans sa façon de raisonner, a-t-il été sauvé? La réponse est non. Et je le démontrerai demain, parce qu'il ne s'agit pas d'être des gens religieux, mais il s'agit d'être des gens qui ont été sauvés par la grâce de Dieu. Et si on a été sauvé, je dirais simplement, ça se voit. Dieu est passé par là, il a mis ses soins, et le sujet donc ne concerne pas que les blessures affectives, sentimentales, éducatives, parentales ou autres. Ça ne concerne pas que les gens qui ont eu une enfance difficile. Ça concerne tous ceux qui veulent être sauvés. Alors, j'ai annoncé mon sujet pour ce soir. Et avant de l'énoncer ou de le rappeler pour ceux qui étaient là, il faudrait aussi rappeler que nous avons lu le texte de Pierre. Vous avez été guéri. Vous avez été guéri. Si on lit trop vite, on va penser que dans l'église du temps de Pierre, tout le monde avait été guéri physiquement, mais c'est pas ça que ça veut dire. Lui, dans les meurtrissures duquel vous avez été guéri, on a vu qu'il s'agissait d'une guérison concernant la manière de vivre. Concernant la manière de vivre, Dieu a guéri la voie sur laquelle nous marchions. Et vous êtes retourné vers le souverain pasteur, le berger de vos âmes, et vous étiez avant des brebis errantes. C'est ça la guérison divine. Même si on n'a pas le cancer. Alors de quoi ai-je dit que j'allais vous parler ce soir ? Ah, il y a eu une nuit. Hein. Bon, Jacques chapitre 5. Et puis, quand j'ai réfléchi de nouveau à ce sujet et que je l'ai retravaillé pour bien prendre le temps d'expliquer ce qu'il y a dedans, je me suis dit, ce soir, ça ne va pas suffire. Donc, ce sera la suite demain matin, à 10h. C'est bien ça ? Jacques chapitre 5. Vous voyez, il me semble, c'est une idée comme ça qui ne me regarde pas, mais que quand la soufflerie ne souffle plus, on entend mieux. Non ? Ah bon, je ne sais pas si c'est une parole de trop que vous allez me dire, vous vous occupez de ce qui ne vous regarde pas, mais c'est pour vous aider que je dis ça. Jacques chapitre 5, verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur et la prière de la foi sauvera le malade? Le Seigneur le relèvera et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où ils étaient égarés sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Ben, si on considère que les textes sont dans leur contexte, quand on regarde la fin du passage, on s'aperçoit bien que ce dont il est question là, derrière ce qu'on a l'habitude d'appeler l'onction d'huile, ça concerne bien plus qu'une guérison seulement physique, puisqu'il est question de ramener quelqu'un de la voie où il s'était égaré et de le sauver de la mort. C'est une guérison beaucoup plus importante qu'une guérison même d'une maladie grave. C'est une guérison qui ressemble à une action de salut. Et c'est ce que nous allons voir par rapport, me semble-t-il, au sens profond du texte. Je voudrais dégager de ce passage des principes spirituels qui sont agissants. Vous savez, il y a une différence entre la magie et le miracle. Savez-vous qu'il y a une différence entre la magie et le miracle ? Quelle est la différence ? Le miracle qui vient de Dieu. La magie. Qu'est-ce qu'un acte de magie ? Je ne vais même pas qualifier un acte de magie de forcément diabolique, parce qu'il y a des prestidigitateurs. Vous savez, les magiciens de la télé sont simplement des gens qui ont mis au point des trucs. Voilà, les illusionnistes. Ça ne veut pas dire qu'il y a un démon derrière le chapeau duquel ils vont sortir un lapin. Il y a un truc pour voir le diable. Mais l'acte magique, c'est l'acte duquel on pense qu'il va y avoir un résultat surnaturel sans que ça nous implique dans une démarche particulière, un engagement spécifique envers Dieu. Tandis que quand Dieu fait un miracle, le miracle est le résultat de la foi, il est aussi le résultat de l'obéissance et de la soumission de celui qui en a été l'objet. Alors, comme j'ai revu mes notes par rapport au sujet que j'avais traité sous le ministère de votre pasteur, c'était, je crois, je sais plus ce sujet-là si c'était à Vienne, mais je crois que c'était plutôt à Alès, j'avais fait une comparaison entre la magie et le miracle à partir de Naaman qui avait drôlement besoin de guérison. Pas seulement de guérison physique, car sa véritable lèpre, celle dont il avait besoin d'être guéri, elle était intérieure, en fait. Elle était relative à sa nature, elle était relative à son caractère, elle était relative à ses pensées, parce que lorsque il a entendu l'ordre d'aller se plonger cette fois dans le Jourdain, il a dit « Mais moi je me disais que, je pensais que, l'homme de Dieu sortirait, il agiterait la main sur le malade, et puis voilà, le malade serait guéri. » Vous voyez, je pensais que. C'était là qu'il avait la lèpre. On s'est pensé. Et Dieu voulait le guérir intérieurement. Oui, parlons de guérison intérieure. Il voulait le guérir par rapport à sa manière de penser. Et Dieu va y parvenir, puisque après, on voit bien que Naaman n'est plus le même homme, il n'a plus la même façon de penser, la même façon de raisonner. Il a été guéri de ça, et je dirais que quelqu'un qui n'a pas été guéri de sa manière de penser, par rapport à la manière de penser du monde, il n'est pas sauvé, même si on l'a baptisé. Et il a été demandé à Naaman de se plonger cette fois dans le Jourdain, c'est-à-dire de se soumettre à des principes spirituels que je n'ai pas le temps d'expliquer ce soir car je n'ai pas décidé de vous enseigner sur ce texte. Lui, il aurait voulu quelque chose de magique, hein, quelques tours d'imposition des mains. Il a été très déçu, très frustré, parce que ça ne s'est pas passé comme ça, et on lui a demandé de se soumettre à des principes spirituels illustrés par cette immersion dans le Jourdain. Il y a des gens qui ont la même attente aujourd'hui, c'est-à-dire qui voudraient que dans l'église, par exemple, on fasse des choses de manière magique. Ils veulent même des réunions magiques. Ça, je voulais le dire hier, je n'ai pas pensé à le dire, parce que peut-être ne fallait-il pas que je le dise hier, mais je vais le dire ce soir. Pour trop de gens, la vie spirituelle, c'est une vie de réunion, point final, quoi. On va à des réunions. Et c'est ça la spiritualité. On va à des réunions. C'est bien d'aller à des réunions de l'Église. Je suis content que vous soyez venus. Pour vous, il y a ça. Mais il n'y a pas que ça. Des réunions, c'est pas magique. Mais ça peut être miraculeux si ça nous apprend à nous plonger dans les principes divins. Vous voyez ? Les principes divins, est-ce que je voudrais vous communiquer, c'est pas tant des recettes magiques que des principes divins auxquels il faut se soumettre. C'est long comme préambule, mais je tiens à développer ça pour que vous compreniez mieux la suite, dans quelle logique je me place. Par exemple, on lui a dit de se plonger dans le Jourdain. Moi, ça me fait penser au principe d'Archimède. Vous connaissez le principe d'Archimède ? C'est pas tout corps plongé dans un liquide ressort mouillé, hein ? Tout corps plongé dans un liquide reçoit de la part de ce liquide une poussée de bas en haut égale au volume immergé, au poids du volume immergé. Donc, quand on s'immerge dans quelque chose, on en reçoit une poussée. Celui qui est à l'origine du principe d'Archimède, c'est pas Archimède. C'est qui ? C'est Dieu. Et Dieu qui a créé des lois physiques, chimiques et autres, c'est le même que celui qui a créé d'autres lois, des lois spirituelles. Est-ce qu'il y a des lois spirituelles ? Vous allez me dire, on n'est pas sous la loi. Ah, oui. Il y a des lois spirituelles. Et il y a la loi du principe d'Archimède dans le plan spirituel. Si vous vous plongez dans quelque chose de divin, vous recevrez de la part de cet élément divin une poussée verticale de bas en haut, qui va être directement proportionnelle au volume que vous avez immergé. Si vous vous immergez dans la parole de Dieu, si vous vous plongez dedans, vous allez recevoir une poussée de la parole de Dieu. Vous voyez, c'est pareil. Et ceux qui veulent des miracles sans se soumettre aux principes des lois divines seront forcément déçus. Et je regrette qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est l'esprit du monde, on nous enseigne des choses magiques, comme je disais hier soir, n'est-ce pas, pour se marier maintenant, c'est même plus vous qui allez chercher la personne Enfin, c'est déjà là, se mettre frénétiquement derrière un écran pour se trouver un homme ou une femme. Comme j'ai dit un jour à des jeunes, j'ai dit, écoutez, si vous voulez vous trouver quelqu'un, c'est facile. Mais c'est très facile de trouver un homme et une femme, non ? Je vous donne pas le conseil, mais je vous dis que c'est facile. Prenez Internet, c'est facile ! Il y a même des fenêtres qui s'allument parfois sur votre ordinateur. Vous n'avez rien demandé, mais on vous fait la réponse alors que vous n'avez rien demandé. Il faut que ça aille vite. Il y a même des gens maintenant qui prennent votre place, qui cherchent pour vous, qui vous organisent le rendez-vous, et puis, voilà, peut-être que c'est comme ça que notre président s'est marié, pardon, c'est une parole de trop, mais ça y ressemble. Ah, ça y ressemble. Désolé. Bon, ça c'est sans problème. Donc, il y a des lois spirituelles. Si on veut la guérison, parce qu'il est écrit ici, la prière de la foi sauvera le malade. Le Seigneur le relèvera. Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. C'est donc qu'il faut se soumettre à des choses spirituelles, à des applications spirituelles. Et demain, puisque ce soir je ne vais pas en avoir le temps, je vous parlerai de l'onction d'huile qui, en fait, en français plus simple, ça veut dire une application d'huile. Il faut appliquer de l'huile, il faut appliquer de l'huile à ce dont on souffre. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça ne veut pas dire que si vous avez mal au genou, il faut mettre de l'huile sur le genou. Ça ne veut pas dire que si vous avez mal à la tête, il faut mettre de l'huile sur la tête, de l'huile dans les yeux. Non. Mais appliquer, ça veut dire quoi, appliquer? Parce que oindre, ça veut dire appliquer. Appliquer, ça veut dire faire correspondre un remède à un mal, et puis l'appliquer. Ça veut dire le mettre en pratique, l'appliquer. On verra ça demain. Mais comme c'est une application d'huile, ça veut dire qu'il faut appliquer le remède spirituel qui correspond exactement à ce dont on souffre. Et le problème de certaines personnes, c'est qu'elles courent après des choses sans s'arrêter pour savoir quel est le remède qui doit leur être appliqué. Un temps, il y a eu quelqu'un qui a écrit des livres, La puissance de la louange. Il voulait appliquer la louange à tout. C'est devenu une aberration. On n'applique pas la louange à tout. La louange ne s'applique pas à tout. Il y a des fois, c'est la repentance. Il y a des fois, c'est une autre attitude. Donc, quelqu'un parmi vous, que je reprenne le texte, j'ai refermé ma Bible, il est dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Ah ben c'est vrai, je suis bien servi, c'est là. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Alors, littéralement, c'est quelqu'un parmi vous passe-t-il par la souffrance? C'est pas est-il, c'est passe-t-il. Une petite différence. Et des fois on y est, mais des fois on y passe. Et on passe, et quand on y passe, les souffrances ne sont pas les mêmes, les souffrances qu'on vit. On peut avoir des passages où c'est une souffrance physique, d'autres passages c'est une souffrance spirituelle, morale, affective, etc. Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Mais attendez, on n'est pas tous enclins à chanter des cantiques ni à être dans la joie quand on souffre. Parce qu'on a le droit de ne pas être dans la joie. Ah. Alors là, on va voir le biblique et le divin. Ceux qui veulent être bibliques, ils vont me sortir un verset. Lequel? Soyez toujours joyeux. Et ils oublient que celui qui a dit soyez toujours joyeux a aussi dit que par moments, il était dans le désespoir, dans la tristesse, et dans d'autres sentiments assez pénibles. Là, vous voyez, on sort un verset, on assomme les autres avec, on les condamne en leur disant « Un chrétien triste, c'est un triste chrétien. » Et dans ce cas-là, vous êtes autorisé à répondre « Et toi, tu es un triste sire ?» Avec des slogans comme ça, je présente ça un petit peu légèrement, mais ça fait tellement de mal. L'effet pervers de certaines doctrines, l'effet pervers, j'insiste, j'assume, peut-être qu'on va m'exclure parce que j'ai dit ça, ce qui compte, c'est pas ce que mon mouvement dit, c'est ce que la Bible dit vraiment et pas ce qu'on lui fait dire. Je dis l'effet pervers d'un enseignement obligatoire sur la guérison, il faut absolument que tout le monde soit guéri, c'est obligé. Si t'es pas guéri, c'est qu'il y a quelque chose dans ta vie qui va pas. Je l'ai entendu. J'ai entendu des affirmations comme un chrétien ne fait pas de dépression nerveuse. S'il fait une dépression nerveuse, c'est le diable qui l'a attaqué. Il y a quelque chose qui va pas dans sa vie. Alors ça, je vais vous dire. Ceux qui tiennent ces discours, qui se veulent bibliques, ne sont pas divins. Ils ne sont pas divins. Parce que il peut arriver que le chrétien passe, même par la dépression. Et si dans les églises, nous nous mettons à avoir de telles paroles à l'égard des gens qui souffrent, on va faire une élimination des gens fragiles, des gens qui passent par la souffrance, parce qu'ils vont pas oser venir de peur de se faire interpeller, accuser, condamner, culpabiliser. Et je dis que ça, c'est grave. Et si je vous dis ce que je dis, c'est parce que moi-même, en tant que pasteur, j'ai constaté comment les gens peuvent se faire du mal les uns aux autres en donnant des paroles qui se veulent bibliques, justement, et très spirituelles. Mais le problème, c'est que c'est pas inspiré. J'ai vu des gens cacher qu'ils étaient à l'hôpital. Pourquoi le cachaient-ils ? Oh, ils disaient, c'est pour ne déranger personne. C'est pas ça la raison. La raison était qu'ils le cachaient de peur que on les taxe d'incrédules, par exemple, pour s'être fait opérer. Un chrétien ne se fait pas opérer, sauf par l'opération du Saint-Esprit. Je plaisante sans plaisanter, mais là je dénonce toutes ces attitudes, peut-être ici il n'y en a jamais eu, pour mieux, toutes ces attitudes, toutes ces doctrines, toutes ces prises de position, je dis, qui sont apparentés à des dérives sectaires. Et j'ai pris position en public et je l'ai écrit contre ça, parce que qu'on soit persécuté, parce que on ne veut pas du péché, parce qu'on veut du Seigneur, bon, c'est la règle, mais qu'on soit persécuté parce qu'on est fanatique, ça c'est pas une obligation. Et d'ailleurs, c'est pas une persécution, c'est simplement la monnaie de notre pièce qui nous est rendue. Que Dieu nous aide à avoir la compassion, la miséricorde envers ceux qui souffrent. Bon, ceci étant dit, je ferme la parenthèse, je crois que je pourrais en dire d'autres choses, mais je crois quelque part qu'en disant ça, moi je l'ai constaté, finalement ça rassure. Quelqu'un un jour même m'a dit, comment un pasteur aux assemblées de Dieu peut-il dire ça? Ben, je dis parce que c'est vrai. C'est parce que c'est vrai que je le dis. Alors la personne m'a dit, merci. Oui, parce que ça débloque. Vous comprenez? Comment pourrais-je vous aider à guérir si j'entretiens une culpabilité qui est fausse? Ça peut pas aller. Alors il faut d'abord éliminer tout ce qui nous empêche de guérir et qui nous fait encore plus souffrir. Alors guérissons des fausses idées et guérissons des paroles qu'on donne aux autres. Par exemple, n'est-ce pas, sur l'éducation des enfants, on est donneur de leçons tant qu'on n'en a pas, ou quand ils sont tout petits, quand ils grandissent, bon, on s'aperçoit qu'ils sont comme les autres, qu'ils ont besoin de rencontrer le Seigneur. Alors attention, donneur de leçons, parce que ça, il n'y a rien de pire, c'est un fléau. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Alors, c'est vrai que quand quelqu'un traduit un texte, il faut bien qu'il choisisse. Et le traducteur a choisi de traduire le mot ici employé par le texte par malade. Mais ce mot ne veut pas dire que malade. Le mot c'est asthénique. Je le francise. C'est asthénique. Et ça veut dire quoi? L'asthénie, c'est resté même en français. C'est pas du français, c'est du grec. Mais ça évoque un état de faiblesse. Fatigue, vous avez dit. Ça peut être ça, c'est la faiblesse. Ça peut même être la faiblesse de la foi. C'est la faiblesse. Alors, je fais un lien avec 1 Corinthiens 11. Pour répondre à une question que vous ne m'avez pas posée. Vous savez, sur la Sainte Seine, ceux qui prennent le pain et le vin dignement. Et l'apôtre ajoute, c'est pour ça que parmi vous, il y a des infirmes et des malades, et qu'un grand nombre sont morts. Justement, cette traduction a besoin d'être un peu développée. Parce que le mot malade, en fait, c'est le même. C'est asthénique. C'est pour ça qu'il y en a qui sont parmi vous faibles dans la foi, et qu'un certain nombre sont morts. Mais le mot mort, ici, ça ne veut pas dire qu'ils sont morts physiquement. Si je développe, ça veut dire certains sont tombés dans un sommeil mortel. Et ça se comprend. Suivez-moi. C'est logique. Je vous ai parlé de logique. Dieu est logique. Il y a de la logique dans les choses spirituelles. Par contre, par rapport à la Sainte Seine, je ne vois pas quelle est la logique. Je ne vois pas le lien logique entre prendre la Sainte Seine et tomber malade, parce que avec cette logique physique, on va après qualifier tous ceux qui sont malades de gens qui prennent la Sainte Seine alors qu'ils sont dans le péché. Ça ne va pas, cette logique. Mais l'autre logique qui est dans le texte et qui est beaucoup plus intelligente, Dieu est intelligent, vous croyez pas que Dieu est intelligent? Pas plus intelligent que lui. C'est que les personnes qui, si vous voulez, vont au culte, allez, j'ai employé le langage qui est notre langage, prennent la Sainte Seine, ils ne s'examinent pas. Qu'est-ce qui se passe? À force de vivre une vie chrétienne dans laquelle on ne s'examine jamais, qu'est-ce qui se passe? Le cœur s'endurcit. La conscience, je vous reparlerai de la conscience, mais là, je suis obligé d'en parler un petit peu. La conscience, elle se cautérise. Elle s'insensibilise. Et quand on fait ça, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, on devient faible dans la foi. C'est logique, non? Fragile. Celui qui ne s'examine jamais devient fragile, et il finit par tomber dans un sommeil mortel, spirituellement parlant. Vous voyez? C'est un sommeil mortel. Réveille-toi, toi qui dors, dit un texte ailleurs. Relève-toi d'entre les morts et Christ brillera sur toi. Vous voyez? C'est ça. Donc, oui, le texte a été mis. Quand dans Jacques 5, il est question des gens qui sont malades, asthéniques, affaiblis, fragiles, c'est à mettre dans la même catégorie que les gens qui finissent par devenir faibles parce qu'ils vivent leur vie chrétienne sans jamais s'examiner, se juger eux-mêmes, sans jamais se remettre en cause, se remettre en question. Et évidemment que là, ces personnes ont sérieusement besoin d'une guérison intérieure. Hein. Parce que si je reprends l'image d'hier du filet, il y a des trous à l'intérieur, il y en a des trous. Il y a des trous dans la vie spirituelle, hein. Pas des petits, des gros trous, des déchirures. Donc il faut un travail de guérison, mais pas seulement de guérison au sens de soigner les bobos, vous savez, tu pleures, pleure plus, t'as de la peine, n'aie plus la peine, n'aie plus de peine, tu es triste, ne sois plus triste. Ça, c'est mettre du plâtre sur les jambes de bois jolies sur les lèvres de la sœur. J'allais le dire, donc c'est pas la peine puisqu'elle l'a dit à ma place, mais sur la muraille, ça veut dire pareil, hein. Les prophètes disaient, vous mettez du plâtre sur la muraille. Et il y a des personnes qui veulent la guérison de leur plaie avec seulement des petits remèdes, vous savez. Alors je ne vais pas m'en prendre à l'homéopathie, mais des petits remèdes dilués, des petits remèdes pas très très, n'est-ce pas? Non, parce que c'est bon, puisque j'ai dit l'homéopathie, c'est pas forcément diabolique, l'homéopathie. Le vrai débat, il n'est pas là. Le vrai débat, il est scientifique et il n'a jamais été résolu à ce jour par les scientifiques. C'est sur l'efficacité d'un produit dont le taux de dilution est tellement bas que normalement ça ne devrait pas être actif. Voilà, c'est ça le débat. Mais derrière, il y a des intérêts économiques n'est-ce pas, des multinationales qui font les médicaments, et c'est une guerre terrible, et quelquefois les chrétiens se sont fait manipuler pour prendre des positions spirituelles et prendre fait et cause, en fait, sans qu'ils le sachent, pour défendre des intérêts économiques ailleurs. Comme, je me rappelle, j'étais assez nouveau converti, il y avait à un moment donné une grande campagne lancée par les chrétiens outre-Atlantique contre les produits Procter & Gamble. C'est diabolique, c'est... En fait, c'était une croisade orchestrée par des industriels en manipulant le monde évangélique outre-Atlantique pour boycotter certains produits et faire couler la marque. Voilà la vérité. Et il n'y avait pas Internet à l'époque. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait ? Plus Facebook, plus Twitter. Non mais vous voyez, faut pas qu'on soit quand même des gens qui réfléchissent à rien, quoi. Mais je parlais du fait qu'il y a des personnes qui ne cherchent que des petits remèdes, quoi. Faites-moi une petite prière, surtout une petite, une onction d'huile. Alors, ils veulent une onction d'huile magique, potion magique. C'est vrai qu'on est peut-être au pays d'Astérix, enfin, c'est pas tellement la Provence, mais quand même. Et puis on n'a pas tous les Gaulois comme ancêtres, hein. N'est-ce pas, Jean Bosco? Puis moi non plus, d'ailleurs. Je n'ai pas les Gaulois comme ancêtres, car ma famille descend de Danois, quelque part en haut, là-haut, plus haut que la Normandie, où je suis né quand même. Ben ça, faut me pardonner, mais j'y peux rien. Quelqu'un parmi vous passe-t-il par la souffrance ? Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Alors, vous voyez déjà, ce mot malade évoque une situation qui n'est pas que physique, mais qui peut être aussi spirituelle, ça peut être aussi physique. Mais bon, après, il faudra voir, à trouver le remède appliqué, à appliquer justement à la situation de la personne. C'est la raison pour laquelle il est dit qu'il prie. Alors, je vais revenir là-dessus tout à l'heure, parce que dans le passage, il est question plusieurs fois de prier, et on va réfléchir ensemble, si le temps le permet, sur ce que ça veut dire, quoi. Mais quel est le but ? Moi, je voudrais en arriver tout de suite au but pour que vous compreniez la démarche. Alors, voulez-vous de projeter la suite, s'il vous plaît, frère ? La suite, voulez-vous la projeter ? Voilà. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Alors, je demande votre attention, que j'ai, je crois, de toute façon, mais encore plus. C'est quelquefois, quand on lit un texte, on ne lit pas le texte, on lit la manière dont on nous l'a fait comprendre. Ok ? Moi, je vous demande seulement de lire le texte. Oubliez peut-être la manière dont vous l'avez compris avant. La prière de la foi sauvera le malade. Alors déjà, c'est pas écrit. Qu'est-ce qui n'est pas écrit ? Guérira le malade. C'est sauvera. Le verbe guérir, il est plus bas, afin que vous soyez guéri. Et ce verbe grec traduit par guéri a aussi le sens de rétablir, de sauver. Il sauvera le malade. Alors, ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas la maladie. Il ne s'agit pas d'être sauvé de la maladie, même si ça pourrait être important. Je ne dirais pas le contraire. Mais ce qui intéresse Dieu, c'est la personne du malade, de celui qui a été affaibli ou tout ce que vous voulez, ou qui est malade physiquement aussi. C'est la personne qui compte. Et il me semble parfois que nous sommes plus préoccupés de la maladie que nous avons que du malade que nous sommes. Est-ce que je me fais comprendre ? On est plus, si vous voulez, fixé sur la maladie qui nous fait mal. Ça peut être physique, moral, psychique, tout ce qu'on veut, que sur la personne qu'on est. Or, ce qui intéresse Dieu, je vais le dire ainsi, je pourrais peut-être le dire mieux, mais j'ai pas trouvé. Ce qui intéresse Dieu, c'est pas notre maladie, C'est le malade que nous sommes. Notre personne. Et il veut sauver la personne que nous sommes. Ça veut dire quoi ? La prière de la foi sauvera le malade. Eh bien, ça veut dire que s'il a prié comme le texte le conçoit et qu'on essaiera d'expliquer, c'est le malade en tant que malade qui est sauvé. Il est sauvé de quoi ? Vous allez me dire de sa maladie. C'est pas ça. Le sens n'est pas là. Il est sauvé. Alors, le texte, le verbe grec veut dire être sauvé de la destruction. Il est sauvé dans son être intérieur. Pour bien comprendre, on enchaîne et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, lui sera pardonné. Au cas où, c'est pas obligé. Donc, le malade va être relevé. Et ce verbe relever dit bien ce qu'il veut dire. Ça veut dire qu'en tant qu'individu, dans son être intérieur, il a retrouvé des forces intérieures. Il est relevé. J'allais dire, en forçant un peu les choses, mais pour mieux les faire comprendre, que quand bien même le malade aurait-il encore sa maladie n'est plus son problème. Parce que dans une rencontre personnelle avec Dieu, au travers de la prière, il a été sauvé de l'emprise morale, spirituelle, psychique du mal sur lui. Il a été sauvé de ça et il est relevé intérieurement, même si il a toujours, apparemment, j'allais dire, le mal, parce que de toute manière, il faudra bien toujours composer avec le mal. On a toujours mal quelque part, non ? T'as mal où ? Non, mais c'est vrai. Écoutez, les gens qui croient qu'à un moment donné on a tellement la foi qu'on n'a plus rien à voir à faire avec le mal se trompent complètement. On a mal. Et même quand David disait « Je ne crains aucun mal », psaume 23, il n'a pas dit « Je n'ai plus mal ». C'est pas ça qu'il a dit. Je suis désolé. Enfin, même pas, je suis pas désolé. Je constate. Je ne crains aucun mal. Ça veut dire que même si j'ai mal, même si on me fait mal, je suis arrivé à ne pas craindre le mal dont je souffre, ni le mal qu'on me fait, car le Seigneur est mon berger, c'est lui qui me conduit. Et le mal, même s'il existe dans ma vie, je ne le crains pas parce que le mal ne va pas me détruire. Et c'est ça le problème, parfois. C'est que le mal dont on souffre, à tout niveau, peut nous détruire. En tant que personne. Est-ce que je me fais bien comprendre ? Ça peut détruire notre foi. Il ne faut pas s'imaginer qu'on est inoxydable. Si on ne fait pas ce qu'il faut pour rester près du Seigneur comme il l'attend, le mal peut nous détruire. Vous savez, des fois, c'est limite. Quand on a mal, on peut en penser des choses, en dire des choses, en interpréter des choses, parce qu'il y a ça aussi. C'est que quand on a mal, on interprète les paroles, les attitudes des autres ou leur silence. Et ça nous détruit. Par exemple, je vais citer dans la Bible le psaume 73, qui est le psaume d'un chantre qui s'appelait Asaph. On ne sait pas trop de quoi il souffrait, mais il dit à un moment donné que tant qu'il a réfléchi sur le fait que selon lui les méchants prospèrent et lui tous les jours il a ses problèmes et tout, il dit je maigrissais, pas le verbe maigrir hein, mais le verbe s'aigrir, devenir aigre, et j'étais percé dans mes entrailles. Il était en train de se détruire. Il a eu besoin de guérison, mais de restauration et d'une application d'huile. D'une application d'huile. Et ça, on le verra demain, mais déjà, je vous mets sur la piste pour que vous compreniez ce qu'il y a derrière le geste symbolique que de mettre de l'huile sur quelqu'un. Si on fait que de mettre de l'huile, sans essayer de comprendre quel est le remède spirituel qu'il faut appliquer à sa personne, ben, on risque la déception, parce que ce qui semble avoir été promis dans le texte, ça va pas s'accomplir. Parlons vrai. Combien de frustrations après l'onction d'huile? Vrai ou faux? Autant le dire. Ça fait partie des choses qu'on n'ose pas dire. Cependant, si on appliquait vraiment le texte, pas seulement au sens biblique matériel, mais avec les enseignements qu'il comporte et qu'on ne fait qu'effleurer, ça devrait à chaque fois avoir le résultat. Le Seigneur le relèvera. Vous savez, heureusement qu'il arrive à un certain nombre, et j'espère beaucoup de personnes, d'appliquer la prière de la foi. Et puis le Seigneur les relève. Ça veut dire que même si les circonstances restent difficiles, au fond d'eux, ils sont relevés. Bon, j'ai relevé des exemples dans la Bible. Je ne vais pas vous les faire lire, moins que le frère aille très vite, mais dans la Genèse, au chapitre 23, Genèse, au chapitre 23, vous avez Abraham qui passe par le deuil. Et au verset 3, Genèse 23, verset 3, je ne sais pas si vous pouvez trouver vite. Voilà. Abraham se leva de devant son mort. Qui était son mort? Sa femme. Pourquoi Abraham s'est-il levé de devant son mort? Parce qu'il y a des gens qui restent prostrés devant leur mort. Et il n'y a pas que des morts en tant que défunts. Dans notre vie, on a laissé un cortège de choses mortes derrière nous, c'est-à-dire peut-être de choses qu'on aurait aimé voir se réaliser, et puis qu'on a eu peut-être un temps, et puis elles sont mortes. Par exemple, l'autre jour, j'étais dans une église, je faisais une mission, et le pasteur m'a raconté le drame d'un membre de l'église. Il a travaillé toute sa vie pour avoir sa maison, et à un moment donné, il y a eu un problème de malfaçon assez important. Donc, le constructeur avait mis la clé sous la porte, déjà. Bon, je n'ai pas tous les détails, mais l'assurance a dit, enfin, c'est allé au tribunal. Le tribunal a donné raison au plaignant qui était le chrétien de cette église. L'assurance et le tribunal a dit, faites les travaux. Alors il a fait les travaux, 150 000 euros, pas une bagatelle, l'assurance rembourse. Mais après, derrière, l'assurance fait appel. Et en appel, l'assurance gagne. Et le monsieur, le frère, est condamné à rembourser l'assurance. Alors qu'il est victime, je vois vos réactions, c'est la mienne aussi. Et là, à 60 ans qu'il a, je crois, à peu près, il doit revendre sa maison pour rembourser les travaux et rendre à l'assurance, alors qu'il a été escroqué par quelqu'un qui maintenant continue d'exercer sous le nom de sa femme. Ah, c'est maintenant inexorable, hein. On peut plus. C'est comme ça que ça va se passer. Ben pour un mort, c'est un mort, ça. C'est sa maison qui est morte. C'est le travail de sa vie. Ben écoutez, franchement, humainement parlant, comment on peut consoler quelqu'un? dire t'as qu'à prier, puis le Seigneur il va te faire gagner le procès. C'est pas ça qui s'est passé. C'est la vérité, c'est comme ça. Il faut qu'il se lève de devant son mort. Son mort, c'est sa maison. Et pour pouvoir se lever de devant son mort dans ces conditions-là, c'est pas du jour au lendemain. Il faut un travail de Dieu à l'intérieur de son âme. Il faut un miracle, quoi. Il faut un miracle. C'est pas pire qu'un deuil humain, perdre un enfant, bien entendu. Mais quand même, c'est gros. Abraham se leva de devant son mort. Qu'est-ce que vous avez ? Ah oui, ce personnage dont j'aime bien parler parfois, qui s'appelle Méphibosheth, qui était le petit-fils de Saül. Bon, il boitait. Il boitait. David le fait venir à sa cour, lui donne à manger. Bon, il y a toute une histoire là-dessus, dans 2 Samuel chapitre 9. Et puis, il y a la fin du chapitre, dont je dis que j'ai eu des années avant de prêcher jusqu'à la fin. Parce que j'étais gêné par un détail, qui n'en est pas un. C'était quoi le détail ? C'est que c'est écrit, après tous ces miracles qui ont été faits pour Méphibosheth, il est écrit qu'il boitait. Ça veut dire qu'il boitait encore. On aurait bien aimé qu'il soit écrit, guérison divine, il boit plus. Mais non, mais il boit encore. Seulement il est guéri. Moi, c'est ainsi que je dis les choses. Il est guéri où ? À l'intérieur de son âme, parce que le handicap n'est plus un handicap pour lui. Dans le sens où, parfois, un handicap nous fait honte. On ne veut pas le montrer, on veut le cacher. On a un complexe avec ce handicap, et j'insiste lourdement là-dessus. Parfois, dans le milieu de nos églises, quand on a un handicap, on ne veut pas le faire voir, parce qu'il y a toujours plein de personnes de bonne volonté qui nous disent « t'as qu'à prier, puis tu hop. » Alors, comme me disait un jour, et ça c'est dramatique, un frère, il me dit « surtout ne m'appelez pas pour le service de la Sainte Seine. » Alors, je voulais savoir pourquoi. Il me dit « parce que je ne veux pas que l'Église voit que je boite. » Quand vous entendez ça, vous vous dites « il y a un problème ». Il y avait un problème. Je vais presque dire à ma honte, il y avait un problème, c'est que j'avais pas réussi à enseigner les gens. Vous me direz, ils sont responsables aussi. Enfin, moi, je l'ai vécu mal, hein. J'avais besoin de guérison après. J'avais pas réussi à enseigner les gens pour qu'ils soient pas capables. Pour qu'ils soient capables de voir quelqu'un d'handicapé sans lui faire une réflexion. Non, mais t'as qu'à prier, t'as maladie. Il avait une maladie, vous savez, une paralysie évolutive. Alors, les choses comme ça, au début, ça se voit pas. Puis après, tout le monde le voit. Alors après, il a demandé à ce que je le cache. Alors bon, je lui ai expliqué les choses, j'ai enseigné l'église, pas avec lui, sur son cas, mais en général. Et puis il a accepté de relever le défi, et puis après, les choses se sont bien passées, mais on ne peut pas se douter, parfois, du nombre de complexes qu'on cache dans l'église. Il se cache parce qu'il a honte de ci, l'autre il se cache parce qu'il a honte de ça. Il y a peut-être des choses honteuses, mais il n'y en a qu'une chose honteuse, c'est le péché. C'est tout. Le célibat, c'est pas une honte. Il y aura toujours des gens pour dire, t'es encore pas marié, toi ? Hein ? Des choses comme ça. C'est ridicule, mais ça existe. Mais il a été guéri. Le Seigneur relèvera le Seigneur le relève. Alors, j'ai même redécouvert, il n'y a pas longtemps, en relisant la Bible dans Hébreux 11, quelque chose que j'ai trouvé quand même d'assez encourageant. Hébreux 11, 34. Voulez-nous le projeter, frère, s'il vous plaît ? Hébreux 11, 34. Donc ça va s'afficher. Je ne vais pas
pas besoin de le trouver. Est-ce que vous l'avez? Voilà. Ils éteignirent la puissance du feu, échappèrent au tranchant de l'épée et guérirent de leur maladie. Tiens, c'est bizarre, j'ai dû laisser une feuille quelque part. Donc, ça fait rien, je vais vous dire de mémoire. Guérir de leur maladie. En fait, si on traduisait plus précisément, ça donnerait ceci. Ils retrouvèrent des forces après avoir été malades. Vous voyez que c'est beaucoup plus fin, beaucoup plus précis, beaucoup plus réel que simplement ils guérirent de leur maladie. Le texte, le verbe guérir ici veut dire ils vont retrouver des forces après avoir été malades. Ça donne de l'espoir à beaucoup de gens, ça. Parce que même si on n'a pas tous été guéris physiquement, le but de Dieu c'est de relever le malade, sauver le malade, le relever. Ça veut dire lui redonner des forces après qu'il ait été malade. C'est ça le but. Vous voyez? Et c'est pour ça qu'il faut une application d'huile à notre vie. Mais quelle aurait-il, 8h15? Je suis trop bavard. Mais il faut prendre le temps quand même que les choses puissent prendre leur volume en nous, quoi. Vous voyez? Parce que là, on est sur le terrain, pas de la magie, hein, mais de l'application des principes spirituels. Alors, pour en arriver là, parce que c'est le but. Alors, comme je devine à l'avance que je ne vais pas avoir le temps de vous développer la partie prière qui est dans le texte pour arriver à ce relèvement du malade, parce qu'il faut que je prenne le temps, donc ce sera demain. On fera une réunion le soir en plus, ça en fera trois. Je voudrais attirer votre attention sur un autre verbe. Vous pouvez remettre un peu plus avant, s'il vous plaît. Les versets, Jacques 5, un petit peu plus haut. Ah non, ça va, oui. Alors, quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur. Bon. Alors, la personne est faible, affaiblie. C'est à elle d'abord de prier. Quelqu'un est-il dans la souffrance qu'il prie? Mais ça, je ne veux pas le développer ce soir. Il est question d'abord qui doit prier. Et après, il appelle. Il appelle les anciens d'église. Alors, je ne vais pas entamer un discours sur qui sont les anciens. C'est le mot ancien désigne des gens qui ont une fonction de direction dans l'église. Voilà. Pierre dit anciens comme eux. Il est apôtre. C'est pas qu'il se rabaisse en se mettant ancien, mais ça veut dire qu'il fait partie aussi des dirigeants. C'est ça que ça veut dire. Donc, c'est pas une fonction ancien. C'est comme un titre de direction. Voilà. Ce sont les dirigeants. Bon. Alors, j'ai aussi vu parfois des polémiques pour savoir si l'onction d'huile, il fallait la faire dans l'église, c'est-à-dire dans le bâtiment là, ou chez les gens. Alors, il y en a qui disaient, non, faut que ce soit chez les gens, ça veut dire, donc, l'onction d'huile, c'est réservé à des maladies tellement graves qu'on est cloué au lit. Alors, ce à quoi, moi, je réponds, on peut avoir une bonne grippe pour autant que la grippe soit bonne, et être au lit, et puis avoir un cancer terrible, et puis pouvoir vous déplacer, venir à l'église. Ça n'a pas de sens. Parce que le texte, j'allais dire, Dieu s'en moque de savoir où ça va se passer. C'est pas le problème. Mais le problème, si problème il y a, c'est de regarder le verbe utilisé. C'est que le malade, il appelle. Alors, il peut pas appeler au téléphone, à l'époque, il n'y en avait pas. Il appelle, il fait appel. Alors déjà, vous voyez, il y a déjà une démarche. Mais le verbe veut dire exactement, non pas venir, faire venir les anciens chez soi, mais le verbe appeler veut dire demander de venir à soi. C'est pas dit demandait de venir chez soi, mais ça veut dire demander de venir à soi. Quelle est la différence entre venir chez soi et venir à soi? Faire venir chez soi ou faire venir à soi? Il y a une grande différence. On peut faire venir quelqu'un chez soi. Jésus est allé chez des gens, mais il n'a pas pu venir aux gens. Vous voyez la différence? Il y a des gens qui l'ont invité, le Seigneur, même un pharisien. Et à un moment donné, le Seigneur, par un concours de circonstances, va être obligé de lui dire, tu vois cette femme, eh bien toi, quand je suis venu, tu m'as pas donné de l'eau pour me laver les pieds, tu m'as pas donné de parfum pour le mettre sur ma tête, et elle, regarde ce qu'elle fait. Ça veut dire que celui qui avait invité Jésus à venir chez lui n'a pas demandé à Jésus de venir à lui. Il n'a pas demandé à Jésus de venir à lui. Et ça, c'est très important. C'est pas un détail. Ça veut dire que dans la démarche qui nous conduit au relèvement, puisqu'on parlait de relèvement tout à l'heure, dans la démarche qui nous conduit au salut, sauvera le malade, être sauvé, il doit y avoir une démarche pour faire venir le Seigneur à nous. Vous savez, parfois, il y a une façon de prier. Vous allez me dire le qualificatif qui lui convient tout à l'heure. Qui n'est pas du tout faire venir Dieu à nous. Dans le sens, on ne permet pas à Dieu de venir à nous. C'est nous qu'allons à lui. Un sens pour aller à lui, mais on lui envoie ses ordres, on fait une comédie de bons chrétiens. Mais si on laissait vraiment le Seigneur venir à nous, on le laisserait nous dire. Tu dis, je suis riche. Je me suis enrichi, j'ai besoin de rien. Tu veux pas reconnaître que tu es pauvre, misérable, aveugle et nu. Oui, tu le développes plus ou pas? Il faut que le Seigneur vienne à nous. Ça veut dire il faut la vérité, parce que la prière qui ne permet pas à Dieu de venir à nous, vraiment, pour qu'il nous dise ce qu'il a à nous dire, c'est la prière hypocrite. La prière alibi. La prière faux semblant. La prière paravent. La prière écran de fumée. On se cache derrière la belle prière du dimanche matin. C'est un écran de fumée. Et regardez, vous tous dans l'église, combien je suis un homme qui loue, qui joue de la musique, qui chante des cantiques, combien je suis un homme spirituel. Écran de fumée. Dieu n'est pas dupe. Et même il disait à Israël, je hais vos fêtes, vos solennités, vos sacrifices. C'est de la fumée dans mes narines, dit Dieu. Ouh, c'est sévère, hein? Enfin bon, il faut être vrai avec Dieu. Et puis, vous allez me dire, c'est pas écrit qu'il appelle le Seigneur de venir à lui. C'est écrit qu'il appelle les anciens. Ben, je vais vous dire, c'est pareil. Si on demande à des personnes de prier pour nous, et qu'on a envers ces personnes une attitude de mensonge, alors, je nuance, on n'est pas obligé de raconter notre vie privée. Vous voyez ce que je veux dire, on n'est pas obligé de dire toutes les pensées bizarres qui parfois nous traversent l'esprit. On peut seulement dire, il y a des choses que j'ai pas envie de vous dire. On a le droit de le dire. Et on n'a pas le droit d'insister pour faire de la cure d'âme, soi-disant, la cure d'âme, c'est-à-dire tirer les vers du nez. J'appelle pas ça de la cure d'âme, moi, tirer les vers du nez. On n'a pas le droit. Les gourous font ça. Ils extirpent les confessions des gens. Après, pour dominer sur eux, parce qu'ils connaissent des secrets. Vous laissez pas faire, hein. Si vous avez affaire à des gens comme ça, vous laissez pas faire parce que ça existe. Ça existe. Vous avez le droit de dire, j'ai des problèmes, j'ai des bombes, des perturbations, des souffrances, et je veux pas vous en parler. Mais ça, c'est pas le mensonge. Et l'autre n'a pas le droit d'insister pour s'ingérer. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que on n'a pas le droit, par contre, de tromper les gens qui prient avec nous et qui prient pour nous. On n'a pas le droit de les tromper. C'est pour ça qu'il est dit là, priez, confessez vos péchés les uns aux autres, priez les uns pour les autres, parce que si on les trompe, les gens, si on vit dans une situation illégitime par rapport au Seigneur, bon, et puis qu'on demande aux gens de se mobiliser dans la prière pour prier pour nous, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Il faut vraiment que cette prière soit une démarche de vérité, de sincérité. Il faut que les gens puissent venir à nous. Alors, là, ça pose une autre question, quoi. C'est que dans l'Église, prier avec les gens qui souffrent, on ne peut pas le demander à tout le monde, dans un certain sens, jusqu'à un certain point. Parce que si vous vous occupez d'aider quelqu'un qui a mal, peut-être qu'à un moment donné, vous obtiendrez de la personne une confidence qui va l'aider. C'est pas que vous lui aurez tiré les vers du nez, mais vous aurez aidé la personne à s'ouvrir, à parler, pour dire sa souffrance, et ça lui aura fait du bien. Mais il y a une chose après. Vous la devinez, la chose qui est votre responsabilité? C'est de garder le secret. La Bible dit, un ami fidèle garde les secrets. Vous n'avez pas le droit de le dire. Et je dirais même, il y a des fois des personnes m'ont dit, n'en parlez pas à votre femme non plus. Elle ne voulait pas. C'est pas qu'ils n'aimaient pas ma femme, elle ne voulait pas que je le dise. Je n'ai jamais dit. Et ma femme, elle ne me pose jamais de questions pour essayer de savoir qui m'a dit quoi. Et je suis sûr qu'elle a dû entendre des confidences de personnes qui lui ont dit, n'en parlez pas à votre mari. Ça arrive qu'on dise, n'en parlez pas au pasteur. Oui, ça arrive. Eh bien, il faut l'accepter en tant que pasteur. Qu'est-ce que vous voulez? On n'est pas Dieu, hein. Et des gens ont le droit. Mais ce qui compte, c'est ce respect pour la souffrance de l'autre. De pas aller la divulguer, la diffuser, aller encore une petite couche dans notre Facebook. Parce que ce que je vous dis là en dénonçant Facebook, c'est tiré de la vérité, de la réalité. Parce que si vous vous confiez à quelqu'un qu'il remet dans son programme Facebook et que tout le monde après va lire, non mais j'en parle parce que ça existe maintenant. Je dis que c'est criminel. Surtout qu'on ne peut plus jamais effacer ce qui est sur Facebook. Voilà, l'inventeur, il a fait fortune. Et moi, je tremble parce que j'entendais l'autre jour, n'est-ce pas, des journalistes expliquer, en vantant Facebook, que bientôt, ce sera finalement le réseau qui va tout rassembler, quoi. Je me dis, mais est-ce qu'on n'est pas en train de s'approcher de ces prophéties, de la fin? Que les gens auront la marque sur le front, la marque sur la main, pour manier la souris. et puis que tous ceux qui voudront pas entrer dans le système de pensée, pourront ni acheter ni vendre. Moi, je me demande si on n'est pas en train d'aller là. Je veux pas faire du catastrophisme, hein. Mais il y a tellement de chrétiens, ils sont séduits maintenant par ça. Ils sont séduits par la technologie, sans parler du temps que ça prend pour passer devant. Hein? Et raconter sa vie et la vie des autres. Non, c'est une horreur. On va tout droit vers ces temps de séduction. On est dedans, déjà. Vous voyez? Mais si on veut vraiment la guérison, si on veut vraiment exercer un ministère et un service dans l'Église, ben, il faut se faire la réputation de gens discrets. Peut-être ça vous démange d'aller raconter parce que ça vous flatte, hein, quelqu'un vous a fait une confidence. Ah, vous dites, oh, quand même, je suis quand même bien, on m'a fait une confidence. Mais taisez-vous. Ou alors dans la prière. Ah, Seigneur, aujourd'hui, tu sais, j'ai rencontré Madame Intel qui m'a dit qu'il fallait pas que je dise qu'elle avait des pensées de suicide. Ah, la folie évangélique pentecôtiste. Ah, mais ça existe, ça. Bon, écoutez. Moi, je pense qu'il vaut mieux que je mette là un point final à ce que je voulais partager sur ce texte. J'aurais voulu en dire d'autres, mais je n'en dirai pas d'autres choses ce soir. Je pense que ça suffit, sinon vous risquez l'overdose. Mais vous voyez, c'est une démarche, le chemin de la guérison. C'est une démarche, quoi. C'est pas magique, c'est pas, même l'imposition des mains, c'est pas quelque chose là, ipso facto, non, il faut se placer dans une attitude où on cherche Dieu. Vous voyez? Je vais juste finir en disant, je vous ai raconté hier un peu de ce qui m'était arrivé. J'ai pas demandé. Si on me l'avait proposé, j'aurais refusé. Quoi? Des réunions de prière spéciales. Parce que je crois, et ça va rejoindre ce que je vais vous enseigner demain sur la prière, que faire des réunions de prière spéciales où on se mobilise pour un objectif unique, que le malade soit guéri physiquement, le cancéreux par exemple. D'abord, c'est injuste parce qu'on le fait pour les uns, on le fait pas pour les autres. Après, les esprits s'échauffent et il y en a qui prophétisent la guérison. Et le malade vient à mourir, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas que je refuse qu'on prie les uns pour les autres, au contraire, j'écris et j'expliquerai demain ce que ça veut dire. Mais je crois que, vous voyez, parfois, bien, il y a des choses qui partent de bons sentiments, les chaînes de prière, ça vient d'où les chaînes de prière? Là, je vais dire bibliquement. Ça vient d'où? Ça vient d'une tradition peut-être plus païenne et superstitieuse que chrétienne et inspirée. Les chaînes, on fait des chaînes. On prend le relais comme si Dieu était sourd. Il a besoin qu'on l'assiège 24 heures sur 24. Mais mes frères et sœurs, j'aimerais que vous soyez en paix. Je vous dire, avec Dieu, c'est beaucoup plus simple. Plus profond, mais plus simple. Plus profond, mais plus simple. Comme ça me démange, j'ai dit que j'allais m'arrêter, mais je m'arrête après ça. Même Pierre, quand il était en prison, vous allez me dire, l'Église a fait une chaîne de prière pour qu'il en sorte. Ce à quoi je répondrai, où est-ce que vous avez vu ça? Dans Acte 12? Non. L'Église est priée pas pour que Pierre sorte de prison, c'est pas écrit. C'est écrit. Non. C'est une tradition qui nous fait le dire. Et le texte dit, l'Église ne cessait d'adresser à Dieu des prières pour Pierre. Des prières pour Pierre. Voilà. Donc, si vous priez pour quelqu'un, ben vous priez pour la personne. Pas pour imposer à Dieu l'issue qu'il doit donner à la situation. Priez pour Pierre, et Jésus avait montré l'exemple, il avait dit, j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille pas. Et quelquefois, on prie pour des objectifs physiques, des objectifs de santé, des objectifs financiers, des objectifs matériels, et on oublie le principal, c'est qu'on doit prier pour que la foi, l'être, pour que le malade soit sauvé, même s'il doit rester malade, mais qu'il soit fortifié. Et l'Église priait pour Pierre, pour que Pierre soit fort dans l'épreuve, pour qu'il puisse tenir bon. Et je pense que c'est comme ça qu'il priait. Alors, évidemment, Dieu a fait le miracle de le faire sortir de prison. Il ne l'avait pas fait pour Jacques quelque temps avant. Et quand Pierre est arrivé devant le groupe de prière, ils ont été étonnés. Alors de là à dire, ces gens-là, vous regardez, ils ont prié pour que Pierre sorte de prison, quand il est là, ils ne croient pas. Quels incrédules. Mais c'est faux, ils ne priaient pas pour ça. Les braves gens, faut quand même pas les accabler. Ils n'avaient pas demandé la libération de prison, ils avaient demandé que Pierre soit fortifié dans son être intérieur par le Saint-Esprit. Alors, oui, je vais vous dire, donc en fait, oui, je vous dis ça pour, pas pour compliquer la chose, pour la simplifier. Vous ne savez pas comment prier pour quelqu'un ? C'est pas grave, dites le nom au Seigneur. Allez, mais quand même, si on ne dit pas à Dieu, comment il faut faire ? Il n'en a pas besoin. Et j'en suis arrivé dans les dernières années de mon ministère de responsable d'église à changer la, un petit peu la manière de faire. Bon, je ne suis pas arrivé pour tout le monde, mais moi j'étais un petit peu mal à l'aise de, c'est pas de ces prières où on prie pour, les, pour un tel, on fait la liste de tout. Premièrement, ça me gêne parce que si quelqu'un rentre et qu'il ne connaît pas notre milieu, il se dit mais qu'est-ce que c'est que ce lieu, il y a que ça fait un choc, hein. Il dit écoutez, on va arrêter, on va faire monter vers Dieu des prières mais avec un contenu pour les besoins spirituels. Et si vous avez à prier pour quelqu'un, vous vous levez, vous dites son nom, c'est tout. D'abord, sa situation, ça regarde pas tout le monde que vous la dévoiliez en public. Et vous dites son nom. Je ne veux pas de dossiers médicaux qu'on ouvre en public. Alors, au début, ça fait un électrochoc, hein. Puis après, en fait, on a eu des réunions de prière plus vivantes. Parce qu'il y a des gens qui venaient plus parce qu'ils en avaient assez de la liste des litanies. Toujours les mêmes. Et avec les années, les gens toujours dans le même état. Pour qui on prie ? Bah, c'est vrai ou pas? Moi, je vous ai dit, je fais pas la langue de bois. C'est comme ça. Donc, c'est comme les gens qui viennent sans arrêt à l'imposition des mains, et toujours les mêmes. Ils espèrent qu'un jour, il y aura le surnaturel qui va arriver par un prédicateur miracle. Et que celui-là, il a le don de guérison, il va les guérir. Mais c'est pas comme ça que ça se passe, frères et sœurs. Assainissons peut-être aussi notre atmosphère de vie de prière. Prenons des sujets dans la parole de Dieu. Prions pour les choses qui sont relatives à la relation avec Dieu, à la communion avec Dieu, à la vie de l'esprit, à la foi, à la parole de Dieu. Et puis, les malades et autres, on les nomme. Et Dieu s'en occupe. Vous le croyez ou pas ? Ben oui, mais c'est ça. Parce que si on croit que Dieu s'en occupe pas, sauf si on fait des prières à rallonge, c'est qu'on n'a pas la foi, en fait. C'est beaucoup plus simple. Vous avez peut-être un enfant qui n'est pas converti. Vous avez peut-être, bon, un mari, une femme, je sais pas, moi. Bon. Déchargez-vous sur Dieu. Donnez son nom au Seigneur. Quand vous y pensez, quand tout à coup ça vous prend, j'allais dire, hop, Seigneur, je te prie pour mon fils. Je te prie pour ma fille. Vous savez? Voilà. Et puis c'est tout, quoi. Quand notre fils, donc malade tragiquement, dont j'ai expliqué hier un peu la situation, donc on a été plusieurs années sans contact, sans nouvelles, c'était terrible avec ma femme. Terrible. Il fallait servir Dieu, prêcher, faire les réunions, tout ça, comme si de rien n'était. Ça a été terrible. Hein, de temps en temps, on évoquait son nom dans la prière, d'autres fois, on ne l'évoquait pas. Puis un jour, le miracle a eu lieu. Un retour. Et moi, j'ai été guéri. Je n'ai pas mobilisé le monde entier pour ça. Dieu sait. Dieu sait. Parce que sinon, on accuse l'Église qui ne prie pas assez pour nous. On accuse les pasteurs qu'on passe ceci, qu'on passe cela. Mais non, mais laissez tomber ça. Placez-vous devant le Seigneur. Voulez-vous qu'on le fasse maintenant ? Seigneur.